9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Un peu perturbé cette AVS, hein. Cette entrée d'habitude, c'est Maître Serran qui l'a fait, mais c'est l'anniversaire de Mona aujourd'hui. Mona qui vient de souffler avec la grâce et le talent qu'on lui connaît, ses bougies. Hein.
Exactement,
hein, tout à fait. Par contre, le gâteau est magnifique.
Ouais.
Il est assorti à toi.
Ah, oui,
Et toutes ces roses qui te ressemblent, tu as vu ça?
C'est adorable, merci beaucoup. D'ailleurs, merci à Mansour aussi qui a fait mon gâteau. Merci.
Il faut vraiment le saluer parce qu'il a vraiment fait un gâteau de magnifique. Ouais. On vous le mettra sur les réseaux sociaux.
Bien évidemment, bien sûr.
Maintenant, il reste à le manger.
Ouais, on va le manger.
On va mettre Serran sous la table et c'est vous qui direz pour qui les parts.
Ah, carrément.
Ouais, c'est vrai, Maître Serran.
Mais on ne fait pas ça pour la galette normalement avec
C'est pareil, on revoit les traditions, Maître Serran.
Si vous voulez.
Bon anniversaire, Mona.
Merci beaucoup, Philippe, et merci à tous. Et bonne journée et bon week-end, et on se retrouve lundi.
Bon, je me retourne vers la réalisation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le générique de Maître Serran, si c'est possible. Et comme ça, Maître Serran fait son entrée comme il en a l'habitude. On va pas trop le déstabiliser, Maître Serran.
Pas du tout, il en faut plus pour me déstabiliser.
C'est vrai, vous êtes sûr, mon lapin?
Oh oui.
Vous allez voir.
Vous êtes tendre aujourd'hui.
Oui, mon lapin, c'est assez tendre.
Oui, je trouve ça tendre.
Mon petit lapin.
C'est vrai.
Mon petit lapin.
9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Donc j'attaque direct.
Allez-y, Maître Serran, après
allez,
vous.
Maître Serran vous salue, camarades auditeurs et auditrices, et ce, quel que soit votre bord politique et ou vos croyances, la tolérance est, chez Maître Serran, une seconde nature. Je suis ravi de vous retrouver pour une heure de questions-réponses en espérant que les réponses puissent vous satisfaire et vous permettre de solutionner vos problèmes. Alors, pourquoi disais-je, mon cher Philippe, au début de mon intervention, que j'étais prêt à accueillir nos auditeurs, quel que soit leur bord politique? Car hier, j'ai eu un échange surréaliste avec des personnes dites de la communauté, plus communément appelées entre nous les bougnoules, mais des bougnoules d'extrême droite, tenant un discours sur les étrangers plus à droite que Zemmour lui-même, c'est dire. Et je parle de personnes dont certaines ont obtenu la nationalité française récemment, qui n'hésitent pas à critiquer le pauvre étranger en situation irrégulière, lui reprochant de venir prendre le travail des Français. Alors même que ces personnes sont devenues françaises il y a à peine quelques années. Pour certaines, elles étaient même en situation irrégulière. Mais bordel, vous avez oublié d'où vous venez, hein ? Vous avez oublié toutes les galères que vous avez pu traverser pour pouvoir venir en France, vous y installer et devenir français. Mais normalement, le premier réflexe qui devrait couler de source n'est-il pas à minima d'aider ceux qui sont aujourd'hui en situation irrégulière, situation que vous avez pour certains connue. J'ai même eu le droit à la réflexion, ouais, mais c'est à cause de personnes comme toi que les étrangers viennent en France, tu les défends, ce à quoi j'ai rappelé à l'idiot qui m'a fait cette remarque que cela ne l'avait pas dérangé de faire appel à mes services quand son frère, il y a à peine une année, avait été interpellé et placé au centre de rétention. On l'aime bien l'avocat à ce moment-là. Je ne sais plus quoi penser de ces personnes de chez nous d'ailleurs. Cette expression est-elle toujours appropriée? Ces personnes qui me laissent entendre qu'elles voteront même extrême droite aux législatives. Les gens de chez nous sont probablement les plus schizophrènes du monde. Ils font des pieds et des mains pour devenir français alors qu'ils s'en tapent le slip de la France. Et quand ils deviennent français, ils n'aiment plus les étrangers. Alors, si toi, auditeur, tu réussis à comprendre la psychologie de ces personnes, n'hésite pas à me le faire savoir. Mais laissons de côté ce qui pourrait presque relever du mystique pour évoquer l'actualité de la semaine et notamment ce que d'aucuns appellent une bavure policière et d'autres la légitime défense. Alors, saviez-vous d'abord qu'en 2020, l'IGPN, la police des polices, recensait 32 décès liés à une intervention de police. Et la dernière affaire en date est la mort de cette jeune demoiselle après que des policiers aient tiré à 10 reprises sur un véhicule qui a refusé de s'arrêter. Alors certes, d'aucuns vous diront, bah oui, mais si le conducteur s'était arrêté, il n'y aurait peut-être pas eu tout ça et donc pas de victimes pour autant. Et imaginons même que si le conducteur du véhicule étouffait pour ne pas s'arrêter, les policiers étaient-ils en état de légitime défense? Et dans l'hypothèse même où la légitime défense pouvait être soutenue, le danger était-il tel qu'il fallait tirer 10 fois de suite? Le problème, c'est que ces affaires de policiers qui ont manifestement la gâchette facile se multiplient depuis quelque temps. Et moi qui pensais naïvement que la police était là pour protéger et servir. Allez, n'hésitez pas à appeler le 0153-48-3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de notre shérif à nous, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Maître Serran sur Beurre FM. Enfin, le chez nous ou la communauté, c'est des expressions qui ne veulent plus rien dire.
Absolument.
Chez nous, c'est chez tout le monde quand même.
Absolument.
On est chez nous.
On est chez nous.
On est tous ensemble. C'est le même chez nous, quand même.
Je sais pas. Je crois que dans les esprits, c'est pas encore. C'est manifestement pas clair. Honnêtement. Et je vous dis, moi, ce qui me surprend, je suis pas sociologue. Mais ce qui me surprend, c'est que, vous l'avez probablement remarqué.
Vous avez d'autres qualités.
On est d'accord.
D'autres spécialités aussi, Maître Serran.
On est d'accord. Mais ce qui me surprend, c'est qu'on a des personnes qui sont arrivées sur le territoire français sans papier, qui ont été régularisées, que ces personnes sont devenues françaises et elles tiennent un discours. Enfin, si vous les mettez derrière, sans voir leur visage et sans connaître leur parcours, vous dites que ce sont des personnes, entre guillemets, on va dire, d'extrême droite. Et pas du tout. C'est-à-dire qu'elles critiquent le parcours qu'elles ont elles-mêmes subi il y a à peine quelques années. Donc je trouve ça un peu fou. Donc il y a les gens de la communauté, même si vous aimez pas cette expression, se sont, selon moi, droitisés fortement. Pour ne pas dire extrême droitisé pour certains.
L'ascenseur sociétal est en panne, Maître Serran.
C'est exactement ça.
Bien. Tiens, je vous envoie des cœurs.
Aujourd'hui, je vous renvoie les cœurs.
Parce qu'on a des cœurs partout, en fait.
Aujourd'hui, tout le monde s'aime, alors.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et c'est qui va faire le ménage après?
La vraie question, elle est là. J'ai fait des cœurs parce que, pour faire le ménage,
Mais c'est-à-dire qu'après, il y a une pauvre femme qui va venir avec un balai.
Je crois que ça va être nous avec Giovanni, là.
Ah ouais, non, je crois pas, moi. Aussi.
Non,
ah
ouais,
il s'est engagé.
Ou alors Dider. Peut-être que c'est dans sa fiche de poste.
Non, ça, je crois pas.
Bon, alors, on va parler de la famille, Maître Serran, et de la responsabilité des parents dans les bêtises que font leurs enfants. Quand je parle de bêtises, bien sûr, ce sont des bêtises qui tombent sous le coup de la loi. Alors, jusqu'à quand est-ce qu'on est responsable de ce que font nos enfants?
D'abord, alors, ce que vous dites est intéressant dans le terme bêtise. Vous savez, il arrive parfois que...
Conneries ou...
On a des clients, qui sont poursuivis. Et quand le magistrat les interroge et que le client a le malheur de répondre « Oui, alors j'ai fait cette bêtise », on lui met un coup de gourdin sur la tête. Puis on lui dit « C'est pas une bêtise, c'est un délit ». Et c'est vrai que ça froisse les oreilles des juges quand on utilise ce terme. Donc, c'était pour rebondir à votre intervention extrêmement pertinente en la matière. Alors, le truc, c'est quoi? Il y a un principe, c'est que vous êtes bien évidemment responsable des bêtises et des délits éventuellement commis par votre enfant. Donc, que ce soit à l'extérieur, que ce soit dans un établissement quelconque, un magasin, l'école, enfin, peu importe, l'enfant est mineur, donc les parents sont solidairement, comme on dit, responsables. Donc, c'est papa et maman quand les deux parents s'occupent de vous. Il y a une vieille décision qui a été rendue il y a très longtemps, et c'est ça qui m'a assez surpris, puisque j'ai une affaire qui est tombée il y a quelque temps, je vais vous l'expliquer. Donc, il y a une vieille décision qui dit que les parents sont tous les deux responsables à partir du moment où ils vivent ensemble. Alors, il n'y a pas besoin d'être marié, mais à partir du moment où on vit ensemble, à partir du moment où on est sous le même toit, en tout cas, à partir du moment où on considère que le couple est un couple qui, entre guillemets, se partage les tâches, si vous avez des enfants, tous les deux, vous êtes responsables. Donc, si une bêtise, un délit, peu importe, est commis, en règle générale, quand le couple est ensemble, on a une seule et même compagnie d'assurance, donc on prévient sa compagnie d'assurance, et puis c'est la compagnie d'assurance qui fait en sorte d'indemniser la personne, le magasin, enfin peu importe, de réparer, comme on dit, le préjudice. Et puis il arrive que le couple se sépare, donc à partir du moment où vous vous êtes séparés, alors très souvent chacun va prendre sa propre compagnie d'assurance, mais à partir du moment où vous vous séparez, si une bêtise, si un délit est commis par l'enfant commun, qui est responsable?
Ah, vous divorcez pas de vos enfants?
Alors, on ne divorce pas de ses enfants, sauf que il y a ce qui s'appelle la notion d'autorité parentale, donc qui reste commune, vous êtes tous les deux responsables, mais il y a ce qu'on appelle l'attribution du domicile conjugal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que, soit décision de justice, soit dans les faits, qu'un magistrat a décidé d'accorder le domicile de l'enfant chez maman ou chez papa, peu importe, c'est celui qui accueille l'enfant, on va dire à plein temps, qui est désormais responsable. Quand bien même, l'enfant irait le week-end chez son père, on va prendre cet exemple-là parce que c'est l'exemple
le plus courant.
Le plus courant. À partir du moment où le domicile officiel est chez maman, et ben s'il se passe une bêtise, quelle que soit la nature de la bêtise, quelle que soit la nature du délit, c'est la mère qui est responsable et donc la compagnie d'assurance de la mère. la vieille décision nous explique tout ça. Sauf que, à partir du moment où ça peut arriver, et c'est le cas d'espèce que j'ai évoqué, qui a été statué par la Cour de cassation, la plus haute juridiction en France, à partir du moment où le couple est, on va dire officiellement, séparé, mais que le couple reprend une vie commune, ça peut arriver. Si ça vous gratte là où je pense, ça peut vous arriver de vous rapprocher de madame et madame de monsieur. À partir de ce moment-là, et à partir du moment où vous êtes sous le même toit, quand bien même le couple a divorcé, s'il se passe la moindre bêtise, les deux assurances du père et de la mère peuvent être mises en cause. Et le litige est parti à partir de quoi ? À partir du moment où l'assurance du père, mise en cause, vient dire, mais attendez, le couple s'est séparé, l'enfant officiellement, ce qui est vrai, il y a une décision de justice, vit avec sa mère, pourquoi moi vous m'appelez pour réparer le préjudice ? C'est monté jusque devant la Cour de cassation, et la Cour de cassation a pris acte que le couple, certes, était officiellement séparé, mais qu'à partir du moment où ils ont repris une vie commune, quand bien même il n'y aurait pas une constance dans le fait de reprendre une vie commune, on considère que la responsabilité du père est absolument la même que la responsabilité de la mère, et donc les deux compagnies d'assurance ont été mises en cause.
Alors, j'aime beaucoup comment vous faites le geste, hein, et c'est dommage qu'on ne soit pas filmé, de repris la vie commune.
Ouais, c'est pas mal ça.
Hein, c'est bien.
C'est vrai. On devrait peut-être.
Vous devriez être filmé parce que.
Mais pas le visage.
Vous avez une
pas...
gestuelle qui est adaptée à toutes les situations.
C'est vrai. C'est vrai. Mais pas le visage. On est d'accord. On peut mettre ça sur le contrat.
Bien.
S'il vous plaît.
Donc, ça, c'est une vieille décision. Donc...
Alors, ça, c'est une vieille décision. Ouais. Et puis. Alors, évidemment, il n'y a que les juristes, entre guillemets, qui connaissent ça. Et puis. J'ai un client donc qui est venu me consulter, qui me dit qu'il vit pas avec, enfin qu'il est séparé. Ils n'étaient pas mariés, ils vivaient en concubinage avec madame, mais qu'il a repris.
Ça les avait grattés tous les deux.
Voilà, ça tous les deux.
Comme
ça,
vous aviez dit, oui.
Oui, enfin je reprends votre vieille expression, donc ça grattait là où ça devait gratter, et donc il est revenu chez son ex. Et puis l'enfant a eu la mauvaise idée d'être à l'origine d'un incendie, donc il y a une dizaine de voitures qui ont pris feu, donc ça fait quand même des sous à débourser. Ouf. Et il était venu me voir pourquoi, pour me dire, mais voilà, moi je suis responsable de rien, puisque l'enfant vit avec sa mère. On a échangé quand même, j'ai cru comprendre, et il me l'a confirmé, que la vie commune est une vie qui est reprise avec madame, et que de deux choses l'une, soit, entre guillemets, personne ne balance, c'est-à-dire que personne ne dit, bah oui, je suis revenu avec madame, et il n'y a que la compagnie d'assurance de madame, soit... Il y a des fuites, et éventuellement des fuites de la part de madame, puisqu'on sait très bien qu'une femme qui vous a trahi, en règle générale, c'est dans l'ADN, elle retrahit à nouveau. Donc si elle vous balance, non mais là...
On est en 2022, vous ne pouvez plus dire ça.
C'est vrai, je ne peux plus dire ça.
Normalement, il y a des bips qui interviennent, mais à la réalisation, ils n'ont pas été briefés.
Il n'est pas habitué à... Si, il me dit que si. Ouais. Et donc à partir du moment où la trahison, entre guillemets, pourrait venir de madame, moi j'ai invité monsieur, donc à ne rien cacher... aux compagnies d'assurance et à mettre en cause sa compagnie d'assurance. Et puis dans l'absolu, j'allais presque dire, on s'en fout. C'est-à-dire le fait d'être assuré, ça sert aussi à ça. Et donc moi j'ai du mal à comprendre ceux qui essaient de préserver absolument leur compagnie d'assurance. Vous payez, vous arrivez un sinistre une fois tous les 10 ans, ben faut bien amortir ce que vous avez payé pendant 10 ans. Donc voilà, mais faut vraiment faire attention à ça, encore une fois, hein. Le c'est pas parce que vous êtes séparé de la mère que vous êtes aucunement responsable civilement. Voilà, c'est une responsabilité civile, et en particulier si vous décidez de reprendre une vie commune.
Il faut, quand on est parents à vie.
On est parents à vie, oui.
À vie, voilà.
Ouais, c'est vrai.
Il y a pas de...
ouais. Quel que soit l'âge des enfants, c'est ce que vous laissez entendre, ou jusqu'à 18
ça,
ans
vous
et
en prenez
stop, ça
au moins jusqu'à 30 ans et des poussières.
Ouais. Moi, je crois que c'est ad vitam aeternam.
Oui, mais quand vous serez vieux, qui c'est qui paiera pour votre maison de retraite ? Normalement, on taxe ses enfants, non ?
Ouais, la génération actuelle, non ? Je crois qu'ils s'en foutent royalement. Franchement.
C'est vrai ?
Et bon,
vous avez tous ces enfants pour rien ? Il n'y en a pas un qui va payer ?
Je vais pas terminer sur cette conclusion, mais je me dis, et je vois comment moi je me suis comporté à l'égard de mes parents, là, je veux dire, il y a. Enfin voilà, entre guillemets, on s'investissait quand même pour nos parents. Là, il y a une sorte de dilettante de la part des enfants, mais je crois que c'est générationnel, ils s'en foutent un peu, quoi.
C'est un vrai sujet, ça, on en reparlera un jour.
Ah bah, ouais.
Bien, vous poserez vos questions à Maître Serral dans un instant. Et si vous avez une question à lui poser, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, vous posez vos questions à Maître Serran, au standard de Beurre FM. Il suffit pour ça de composer le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Et c'est Sonia qui est avec nous, Maître Serran.
Allô ?
Bonjour Sonia.
Bonjour.
Alors Sonia, si vous avez le haut-parleur ou le kit main libre, je veux bien que vous l'enleviez, s'il vous plaît.
Attendez.
Voilà, comme ça, on va bien vous entendre.
Je n'ai pas le haut-parleur, mais...
Et peut-être quelque chose d'enclenché. Alors on vous écoute, Sonia.
Allô, c'est
oui.
Comme ça, vous
oui.
M'entendez ?
Allez-y.
Il y a ma voix qui...
Bon. Alors Sonia, allô, allez-y, lancez-vous.
Allez-y, Sonia.
Oui.
Alors, Sonia...
Allô Sonia.
C'est quoi ?
On vous entend plus.
Oui, on va accueillir Stella. Stella, c'est
oui,
ça ?
Bonjour.
Oui, bonjour, bienvenue Stella.
Bonjour, enchantée. Bonjour maître, bonjour.
Bonjour à Stella.
Donc alors c'est Fella, F F F
comme c'est Fella.
Voilà, exactement. Moi j'aurais une question, alors il me semble que c'est de l'ordre de l'urbanisme, je pense. Vous allez me confirmer ça ou pas maître ? Alors en fait voilà, je gère une station de lavage. Vous avez des pistes Karcher, un rouleau, tout ça pour les voitures. Et ma station de lavage marchait exclusivement sur la base d'un forage. Donc j'ai un forage, j'ai installé toute une technique de filtration, tout ça. Donc je n'utilisais que l'eau du forage. Sauf que ma pompe de forage, qui vaut un peu plus de 15 000 euros, est tombée en panne la semaine dernière. Donc l'idée toute simple était d'ouvrir le robinet de l'eau de ville pour pouvoir avoir l'eau de ville. Et en fait, je suis rattachée à l'ancien propriétaire qui m'a vendu cette station de lavage, qui a un immeuble juste à côté, un immeuble locatif, où il y a plusieurs appartements, et en fait, on a le même compteur. Donc moi, sur le coup, bah, je me suis pas posé la question à ce moment-là, quand on a racheté la station, j'ai pas trop insisté, des événements un peu douloureux, notamment le décès de mon mari, donc c'est vrai que j'ai laissé ça de côté, et je me suis plus concentrée sur la station et de l'équiper au forage. Donc là, le forage est en panne. J'ouvre le robinet et je vois qu'il n'y a pas d'eau. Donc j'appelle mon technicien qui me dit là, t'as pas d'eau, on t'a coupé l'eau. Donc j'appelle Veolia, donc on est dépendant de Veolia sur cette commune. J'appelle Veolia qui me dit bah écoutez, le nom auquel est ce branchement, donc c'est pas ma SCI à moi, c'est la SCI de l'autre monsieur. Il a un impayé de 28 000 euros et donc on n'ouvrira pas le branchement tant que c'est pas payé. Donc j'ai écoutez madame, moi j'y suis pour rien, je travaille au forage, ma pompe est HS, je veux utiliser l'eau de ville que je paierai bien sûr. Et comment on fait ? Donc elle me dit non, vous êtes dépendante de lui, donc vous ouvrez pas. Donc je prends rendez-vous avec eux, je leur dis voilà, ben moi je veux avoir mon branchement à moi direct pour pouvoir payer ma consommation à moi direct. Comme ça, je ne suis plus dépendante de ce monsieur avec qui je n'ai rien de commun quoi. Et donc on me dit non. On me dit vous êtes dépendante de ce monsieur et vous dépendez de ce branchement et pour qu'on puisse vous ouvrir l'eau ou vous créer un autre branchement, il faut d'abord payer cette facture de 28 000 euros. Et voilà, donc là je suis lésée parce que mon commerce est fermé, je n'ai plus d'eau, je dois réparer mon forage, ça met énormément de temps, et je sais pas quoi faire. Est-ce qu'ils ont le droit de m'interdire comme ça d'avoir de l'eau quoi?
Bah, la difficulté, c'est qu'ils ne se contentent pas simplement de vous interdire d'avoir de l'eau. Ils partent du principe qu'il y a une facture impayée. Alors ensuite, qu'il y ait une relation commerciale entre vous et cette personne-là, en vérité, Veolia s'en fout. Mais ça, on peut le comprendre. Ils ne sont pas là pour régler ce genre de litige. Donc votre principal interlocuteur, ça va être la personne qui vous a cédé ce bien ou cette activité. Mais à part une mise en demeure, vous l'avez contacté quand même ? Vous avez discuté avec ou pas ?
Alors, il est en Pologne depuis 6 mois et il n'est pas prêt de revenir. Il n'est pas prêt de revenir.
Mais le problème, c'est que ça va être le seul,
moi,
entre guillemets...
Je suis cadastré, je suis propriétaire du sol.
Ah ouais, mais vous savez, quand on est propriétaire du sol, il y a une chose qui se règle aussi, ce sont ces histoires de compteurs. Alors, je comprends bien les raisons pour lesquelles vous n'y avez pas pensé et puis en règle générale... Quand vous dites, quand on est cadastré, on part du principe qu'on est totalement autonome et qu'on a son propre compteur, mais ce sont, voilà, des vérifications à faire. Donc, le découvrir maintenant, c'est plus que fâcheux, mais, quand Veolia vous répond ça, ils sont pas, entre guillemets, en tort. Alors après, il y a rien qui vous interdirait, ce serait pas sérieux de ma part de dire que vous allez obtenir gain de cause, mais il y a rien qui vous interdirait de les assigner en référé, c'est-à-dire de mettre en avant l'urgence de la situation avec évidemment votre votre activité commerciale qui est en stand-by en attendant, pour demander alors soit un compteur divisionnaire. Et dans ce cas-là, on saura très précisément ce que vous consommez comme eau, et donc il n'y aura pas de difficulté entre les uns et les autres. Maintenant, vous me dites que ce compteur commun a quand même été utilisé à un moment ou pas du tout? Est-ce que vous y avez eu quand même, parce que vous me dites il y a...
J'y ai eu accès effectivement pendant que j'installais justement la période, ça a duré quoi, 3 semaines, pendant qu'on installait ce système de filtration pour mon forage, j'ai utilisé l'eau de ville pendant 3 semaines et ce monsieur m'a fait une facture avec son adresse, tout ça, et puis il m'a dit voilà, t'as consommé tant de mètres cubes et voilà, c'est à toi de payer ça, donc c'était 2 800 euros. Écoute, on est pendant le Covid, ma station est fermée, j'ai pas pu consommer toute cette quantité d'eau, il y en avait pour 2300 euros.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une contestation de votre part.
Oui, complètement. Mais bon, c'est un monsieur à qui on peut pas parler.
J'entends bien, mais vous avez bien compris que la difficulté qui va se poser, madame, c'est que, imaginons que vous engagez une procédure de référé. Alors, je rappelle que la procédure de référé, c'est une procédure d'urgence. On appelle le tribunal, on prend une date d'audience, et puis on est reçu par le juge dans un délai assez rapide. Mais pour bien comprendre, en droit, on dit que la procédure de référé est une procédure de l'évidence, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de discussion possible. Mais en face, ils peuvent simplement indiquer que il y a déjà une difficulté sur une quantité d'eau et une facture. Alors déjà entre vous et on va dire ce copropriétaire, rien que ça, c'est suffisant pour que le magistrat vous dise non, madame, moi je considère que votre histoire n'est pas évidente. Et puis dans ce cas-là, alors soit vous réengagez une procédure, mais là ça va vous prendre des siècles et donc il va y avoir une conséquence directe sur votre activité professionnelle. Soit vous réglez ça au plus vite, mais je comprends bien que ça va être difficile avec ce type qui est à l'étranger. Mais Veolia risque d'obtenir gain de cause même dans le cadre d'une procédure d'urgence. Et je vous dis, ce qui est embêtant, c'est cette histoire de facture litigieuse. Donc je comprends que vous puissiez la contester, mais ça n'aide pas.
Attention, hein, je l'ai réglée, cette facture qui soi-disant m'incombait. Hein, je l'ai réglée vraiment pour être tranquille.
Bah donc mais vous ne l'avez pas discuté. Vous venez nous dire que oui, je l'ai discuté. Je lui ai dit, je n'ai pas pu consommer tout ça. Ça, vous l'avez payé.
Je l'ai payé, oui, effectivement.
Alors dans ce cas-là, engagez une procédure de référé, une procédure d'urgence. Et compte tenu de votre situation, puisqu'il y a des conséquences directes sur votre activité professionnelle, c'est le magistrat qui pourra contraindre Veolia donc à faire le nécessaire, encore une fois, à minima peut-être un compteur divisionnaire pour vous permettre, en attendant que le type revienne et règle ce qu'il a réglé, pour vous permettre de connaître votre consommation d'eau et donc de régler très précisément ce que vous consommez. Mais c'est une procédure, dans ce cas-là, de référé. Hein, c'est une procédure d'urgence. Enfin, de toute manière, c'est ce qui va s'appliquer pour vous, là.
D'accord. Et donc Veolia, donc pour vous,
ils sont
dans leur droit, quoi.
Ah non, mais d'abord juridiquement, je vois pas entre guillemets de faute de leur part. Mais indépendamment de ça, vous imaginez 30 secondes que quand bien même ils seraient pas dans leur droit, comment voulez-vous faire pour débloquer l'ouverture d'un compteur? C'est-à-dire que s'ils vous disent ben non, nous on le fait pas. Quand bien même ils seraient pas dans leur droit, ça voudrait dire quand même qu'il faudra demander à une tierce personne, donc à un juge, de faire le nécessaire. Ouais, vous n'allez pas vous-même ouvrir ce robinet. Donc, oui, ils ont cette prérogative-là. Je ne dis pas que le magistrat va leur donner raison de manière absolue, mais imaginons que Veolia, même si Veolia a tort, vous pourriez en tirer quoi comme conséquence? En disant, ah ben, l'avocat m'a dit que vous aviez tort, je vais moi-même faire le nécessaire. C'est impossible. Donc voilà, donc ça va vous bloquer quand même. Donc, voyez avec eux peut-être, éventuellement, si l'idée n'a pas été soumise à l'installation d'un compteur divisionnaire. Vous justifiez que vous aviez réglé d'abord la première facture qui vous a été transmise. Et puis, s'il n'y a pas de discussion ou s'ils veulent pas l'ouverture de ce compteur divisionnaire, donc qui vous sera propre, il n'y a qu'un magistrat, encore une fois, en procédure d'urgence, qui peut se saisir du dossier.
D'accord.
Okay. Voilà.
Bah, écoutez, je vous remercie pour ces explications.
Je vous en prie, bon courage à vous.
Merci, au plaisir, au revoir.
Merci beaucoup. Alors, on accueille Fanny qui est avec nous, Maître Serrano, 01 53 48 3000. Fanny, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour. J'avais une question parce que j'ai travaillé avec un employeur pour qui j'avais déjà travaillé. À la base, elle m'avait signé un compromis d'embauche. J'ai commencé à travailler à la date du compromis d'embauche, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, elle m'a versé 500 euros sur tout le mois d'avril.
Et combien le salaire initial?
Initial net, 2700 euros sur la promesse d'embauche.
D'accord.
Voilà. Donc, sachant que je n'avais pas forcément les qualifications pour ce poste-là, qu'elle était en connaissance de cause, puisque j'avais déjà travaillé sur une autre société qu'elle gérait avec deux actionnaires. Donc, elle connaissait ma qualification ou autre. Donc, c'était son choix de m'embaucher. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, je me suis aperçue qu'au sein de son groupe, elle a différentes filiales, dont une qui devait aider les personnes à régulariser, à monter des dossiers de régularisation du fait qu'ils étaient sans papier. D'accord? Les dossiers ne bougeaient pas. Donc, moi qui étais en charge de ces dossiers-là, avec cette personne-là, puisqu'elle connaissait plus le domaine que moi, j'ai essayé de parler avec et elle a toujours en fait reculé l'échéance pour faire avancer les dossiers des clients. Donc, sachant qu'ils avaient déjà versé la moitié de leur devis, pour éviter en fait du fait qu'ils m'avaient rencontré que moi, je tenais pas à ce qu'ils versent l'autre partie du devis tant que leur dossier n'avançait pas, ce qui était logique pour moi. Donc, je les ai alertés par rapport à ce problème-là, ce dysfonctionnement-là de l'entreprise.
Mais alors, ce que vous me dites là, ça, j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire que, on est d'accord, il y a un salaire d'à peu près un peu plus de 2500 ou 2700 euros qui doit être versé. On vous donne 500 euros. Et vous me dites que, alors, vous avez alerté X ou Y. C'est quoi, ce serait lié, ces deux aspects-là?
Pour elle, oui, parce que vu que les dossiers n'avançaient pas.
D'accord, donc elle vous dit, fallait pas les prévenir.
Elle devait m'informer sur ces. En gros, là, elle a signé, elle a envoyé un message au client en disant par laquelle, en citant mon nom et prénom, par laquelle, en gros, je suis une escroqueuse et que j'essaye de reprendre les clients sous une autre société à mon nom pour pouvoir me faire payer, alors que les clients, je les ai rencontrés, je leur ai dit que moi, il était hors de question de poursuivre dans des conditions pareilles, de toute façon.
Et ça faisait partie de vos compétences, madame, ou pas? Est-ce que c'est vous qui gérez l'aspect financier de ces dossiers-là?
En fait, elle m'avait fait une promesse d'embauche en tant que gestionnaire de ces sociétés.
D'accord, c'est-à-dire que... Alors, ma question est simple, c'est-à-dire que... je vais vous dire pourquoi je vous pose la question. Alors, d'abord, s'il y a un salaire qui était prévu et que vous êtes payé largement en deçà de ce qui était prévu, vous pouvez toujours demander... tout le monde va dire... Maître Serre utilise tout le temps le même terme. C'est une procédure de référé, mais devant le conseil de prud'homme. Ouais. Donc ça, vous pouvez le faire, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ce qui m'inquiète davantage, c'est que... alors, d'abord, elle envisage de vous licencier ou elle vous a déjà licencié ou pas encore?
Non, parce que pour le coup, elle m'a pas fait signer. Il y avait que la promesse d'embauche.
Peu importe, madame. À partir du moment, voilà. Peu importe. À partir du moment où vous entamez le votre boulot, qui est une promesse d'embauche ou pas, on considère que vous avez
Où vous avez travaillé au moins un jour.
Oui, salarié de la boîte. Donc, elle peut pas dire. Oui, non, mais c'était une promesse. Donc, à partir du moment où vous avez commencé, le salaire est dû et elle doit vous licencier.
Et puis du fait que je suis en partie aussi en partie auto-entrepreneur à mon compte et qu'elle m'a demandé de faire cette facture-là sur ma société, comment je peux rebondir du coup?
Ouais, mais ça, vous savez, ce statut d'auto-entrepreneur, il pourrit la vie de tout le monde. C'est-à-dire que les personnes qui sont entre guillemets en position de force imposent parfois en disant je suis prêt à travailler avec vous, mais sous réserve que vous ayez un statut d'auto-entrepreneur, ce sera considéré comme une facture non réglée. Vous voyez, ce sera pas, en tout cas cette partie-là, ce sera pas considéré comme un salaire dû. Ça, c'est autre chose.
D'accord.
Mais c'est votre statut d'auto-entrepreneur, on va dire une société qui demande à une autre société de lui payer ses factures.
D'accord.
Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, elle pourrait vous mettre en cause en disant, entre guillemets, que vous avez saboté un peu son activité.
D'accord.
Et ça, ça peut être embêtant. C'est-à-dire que elle pourrait dire voilà ce qu'elle a dit. Alors mensonge ou pas mensonge, ça c'est autre chose. Mais ou elle a essayé de me dénigrer. Et elle pourrait se retourner contre vous, voire même demander des dommages et intérêts s'il y a eu des conséquences sur sa clientèle.
Alors moi, en fait, j'ai juste prévenu la clientèle d'attendre que leur dossier avance, qu'on s'entende bien, que tant que la première partie qu'ils ont versée et que leur dossier n'a pas du tout bougé.
J'entends, madame, mais est-ce que vous aviez l'accord de cette personne ? C'est ça le truc ? Ouais, là, vous gérez pas vos propres dossiers.
Oui, oui.
Voilà, vous gérez les dossiers d'une société. Est-ce que vous aviez l'accord de dire ça ?
C'est un silence, coup, là.
Je sais pas, ça peut être porté à confusion, puisqu'elle me déléguait plusieurs tâches, ou elle me demandait de prendre des responsabilités au sein de ces diverses filières.
Non, sur le moins, encore une fois, je peux comprendre, hein, c'est généreux de votre part, mais vous êtes mis en faute toute seule sur ce terrain-là, malheureusement.
Bon, alors Fanny, vous allez rester en ligne, on va revenir dans un instant. Si vous avez des questions à poser à Maître Serran, eh bien, vous composez pendant la pause le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, là, Maître Serran vient de découvrir qu'il allait demander de l'argent à Tariq, parce que c'est vrai qu'il inspire un petit peu,
c'est des
sources d'inspiration de son spectacle à Tariq, et Maître Serran ne touche rien.
Exactement, ça m'inspire beaucoup. Mais en fait, quand je suis parti au tribunal, il y a quelques années, pour un divorce, il y a un mec qui est venu se défendre tout seul. Et il avait pas d'avocat et c'était tellement drôle. J'ai parodié dans le spectacle, mais j'imaginais trop le mec se défendre en disant objection votre honneur, obstruction monsieur l'arbitre.
Tu sais que ça c'est à la télé hein.
Oui, mais moi, tu sais que moi j'ai pendant ouais, longtemps
c'est à la télé
que...
mais c'est des expressions que qu'on entend parfois, c'est-à-dire vous avez des clients lambda enfin je
regarde objection votre honneur. Ouais. Et c'est
mais
américain.
Bon, voilà, c'est oui, non mais exactement, c'est ça se pratique pas dans des tribunaux français et puis vous avez des clients qui vous parlent aussi comme ça en disant vous oubliez pas de dire ça. Donc on rappelle un peu qu'évidemment oui. C'est impossible.
Et Harry l'a gagné le gars ou pas ?
Bah non, il a perdu. Mais il est même pas de gosse, il est venu pour le délire.
Toute ressemblance avec des faits ayant existé n'est qu'une pure coïncidence, comme on dit. Tiens, Maître Serran, nous sommes en direct. Alors, donnez votre numéro de téléphone
à Fanny qui
voudrait votre numéro de téléphone, Maître Serran.
Fanny, n'hésitez pas à m'appeler, alors pas tout de suite, mais d'ici une petite demi-heure, au 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Et c'est bon pour tout le monde. Alors, est-ce qu'on a récupéré Fatima ? Fatima.
Oui.
Oui, bonjour Fatima.
Bonjour, moi je vous appelle parce que bon, moi j'ai un souci. C'est que bon, mon agresseur a eu un jugement rendu en correctionnel au mois d'octobre 2021. Donc, il avait interdiction de paraître dans le 95 et interdiction de m'approcher. J'ai une ordonnance de protection qui n'a pas respecté non seulement le jugement rendu et non seulement aussi l'ordonnance de protection.
Mais votre agresseur, madame, c'est un membre de la famille ?
Non, c'était une ex-relation avec...
D'accord. Voilà, parce qu'il y a la notion d'ordonnance de protection.
Ça peut être un ex-conjoint,
voilà,
c'est ça ?
Ça peut être un ex, ça peut être le mari, enfin voilà. On est d'accord.
Un ex-conjoint.
D'accord.
Voilà. Donc, si vous voulez, bon, comme il a continué à marceler suite au jugement et tout, donc il a été arrêté là le 10 mai, suite au renouvellement de l'ordonnance de protection, parce qu'elle arrivait à expiration. Donc... Là, il a été placé en garde à vue le 12. Et au lieu de faire de la prison son sursis, ils l'ont mis en centre de rétention administrative parce qu'il avait en sa possession de faux papiers.
Voilà, il est donc en situation irrégulière.
Voilà.
D'accord.
Donc, moi, je voulais savoir, est-ce que c'est normal qu'il ne fasse pas son sursis ?
Alors, le truc, c'est une sorte de deal entre l'intéressé, j'allais dire, et le procureur de la République. Le raisonnement, c'est quoi ? C'est dire, on va pas le mettre en prison, puisque si on le met en prison sur le territoire français, il sera à la charge de l'État français. On préfère, entre guillemets, pardon pour le terme qui est pas joli, mais qui s'applique dans ce type de dossier, on va dire, on préfère se débarrasser de l'intéressé en le mettant dans au centre de rétention, jusqu'à ce qu'il y ait une place dans un avion et qu'il puisse retourner au pays, en tout cas être expulsé. Donc c'est ça le deal.
Oui,
mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont placées au centre de rétention et qui finissent quand même par être libérés. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est placé au centre de rétention un temps déterminé. Et si pendant ce laps de temps, l'État français n'a pas réussi à vous expulser, vous finissez parfois par être libéré. Donc il y a aussi cet aspect-là. Donc, maintenant, je pars du principe que si cette mesure a été décidée, c'est que l'État, et en l'occurrence peut-être que le procureur de la République, a davantage d'informations et considère que ce monsieur peut faire l'objet d'une expulsion. Il est de quelle nationalité ?
D'Algérie.
Bon, les autorités algériennes expulsent et signent les laissez-passer, en tout cas les autorités consulaires signent les petits papiers pour que les uns et les autres soient placés dans un avion et renvoyés au pays. Donc le deal, c'est ça.
D'accord, ok. Et là, justement, je sais que par l'inspecteur, il m'a dit que le 3 juillet, il doit être auditionné concernant les faux papiers parce que c'est faux et usage de faux. Voilà, donc... Monsieur, bon, utiliser des faux papiers pour pouvoir travailler. Et voilà, donc c'est pour ça que la rupture, et donc j'ai subi une agression à cause de ça, et de l'harcèlement et dégradation de véhicule à cause de la vérité, quoi.
D'accord, vous saviez pas qu'il y avait des faux papiers ?
Non, non, non. Et c'est qu'après que j'ai découvert, parce qu'il avait une carte algérienne et une carte française.
D'accord.
Voilà, donc après je me suis débarrassée vite fait de cet individu. Et
parce qu'il avait des faux papiers ?
Oui, oui, parce que bon, il avait une carte française qui a rajeuni 10 ans. Et c'est suite à un congé en vacances que j'ai découvert comme quoi que j'étais avec un imposteur. Voilà.
D'accord, mais c'est pas lié. Alors, pardon, comme ça, vous n'êtes pas obligé de répondre à la question, mais vous vous êtes séparés parce que vous avez découvert qu'il avait des faux papiers, c'est ça ma question ?
On s'est séparés.
Ou c'est parce que, je ne sais pas, parce qu'il a été violent, parce que.
Non, non, attendez. Moi, je me suis séparée de lui parce qu'une fois que je lui ai dit la vérité de ce que je savais sur lui, donc il était violent, il m'a agressé, m'a étranglé. L'affaire a été classée déjà en 2020. Et donc après, suite à ça, moi, j'ai été hospitalisée. Et donc, je suis restée 6 mois et demi en hospitalisation. Quand je suis sortie, il a recommencé à marceler, à venir à n'importe quelle heure, à mes pieds, à venir en voiture, à me suivre partout. Donc, c'est devenu ingrat.
D'accord, d'accord. Ah, bah là, je comprends, d'accord.
Oui, oui, oui.
Ok.
Donc, j'ai subi du harcèlement pendant 2 ans. Voilà.
Donc, très bien.
Moi, je trouve comme quoi que 3 mois de sursis, c'est rien du tout par rapport à tout ce que j'ai subi.
Ah, mais alors, vous savez, le harcèlement, alors c'est puni pénalement, mais. J'ai pas souvenir d'avoir croisé des magistrats prononçant des peines de prison fermes pour des histoires de harcèlement. Voilà, il y a des sortes d'avertissements, il peut y avoir de la prison avec sursis, il peut y avoir des amendes, et encore quand l'intéressé est solvable, mais on n'est pas dans le raisonnement de prononcer des peines de prison fermes pour des histoires de harcèlement, on n'en est pas encore là.
Non, mais ce qui est malheureux, c'est que si vous voulez, que quand vous faites agresser, des fois, vous n'êtes pas entendu.
C'est vrai qu'il y a... Non, mais là c'est vrai que de toute façon, Fatima, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'avancer pour écouter la parole des femmes et des hommes qui sont agressés, mais c'est vrai que...
Oui, je suis d'accord avec vous, oui.
Ça avance petit à petit, mais c'est vrai qu'il y a une écoute qui est peut-être pas suffisamment attentive. Mais vous avez été harcelé, mais vous avez parlé de violence physique tout à l'heure.
Oui, 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 oui. Violence physique, j'ai été étranglée dans mon véhicule.
D'accord. Vous les avez fait constater ?
Ben oui, et tout ça. J'ai même eu une expertise psychiatrique parce que j'étais tellement choquée. Et c'est classé. Donc, moi, quelquefois, je me pose la question, est-ce que vraiment on est défendu quelque part ?
Alors, il faut comprendre quand même que dans l'hypothèse... Alors, sincèrement, je ne sais pas quand est-ce que votre affaire s'est produite, mais les parquets des tribunaux font plus de cadeaux. C'est-à-dire qu'ils poursuivent systématiquement. Mais dans l'hypothèse où votre affaire avait été classée, il n'y a rien qui interdit à la victime. Donc, vous auriez pu, vous, déposer, saisir le procureur de la République pour continuer le dossier. C'est techniquement possible. Mais ce genre d'affaire, c'est à partir du moment où il y a des traces... le parquet poursuit systématiquement.
Qu'est-ce que vous appelez des traces ?
Même dès qu'elle a été étranglée, voilà, oui, des traces, faut les faire constater. Mais à partir du moment où il y a des rougeurs, où il y a des, je parle même pas de fractures ou autre, mais à partir du moment où vous pouvez faire constater ça, les procureurs de la République, les parquets poursuivent systématiquement.
Parce que si vous avez une interruption de 6 mois, si j'ai bien compris. Ah, on l'a perdu Fatima. Ouais, non, 6 mois, c'est beaucoup d'interruption finalement. Bon, Fatima, vous rappelez Maître Serran au numéro donc qu'il vous recommunique.
06 62 58 59 64.
Alors, il nous reste combien comme temps là? Pas très français ma phrase, comme temps.
C'est pas grave, il reste 2h30.
Non,
2h30.
Il reste 3 minutes, Maître Serran. Ouais. Alors, le temps d'accueillir Ahmed. Bienvenue, Ahmed.
Oui.
Bonjour, Ahmed.
Bonjour, Philippe. Bonjour, Maître Serran.
Bonjour, Ahmed.
Vous allez bien? Moi, je vais essayer de faire bref parce que je sais qu'il reste pas beaucoup de temps. Donc, j'ai entamé une démarche pour faire un prêt immobilier pour une première acquisition. Donc, tout s'est bien passé, la visite, ma femme elle a aimé, tout ça. Donc, on a déposé le dossier à la banque. Donc, entre-temps, le délai de rétraction il est passé. Donc, on a eu un refus. Entre-temps, bah, on croyait qu'il était mort. Et après, comme moi j'avais posé un dépôt de garantie au notaire, ils m'ont dit qu'il fallait avoir 2 refus pour pouvoir le récupérer. Donc entre-temps, j'ai fait appel à un courtier. Le courtier, il a fait une demande. Et moi, je pensais que c'était mort. Mais bon, il a réussi à faire obtenir c'est-à-dire pour les revenus moyens. Et quand on a fait la contre-visite, puisque comme entre temps il s'est passé 3 mois, pour moi c'était bon, mais ma femme, vous savez, on n'a pas la même vision, les femmes ils sont posées à la maison, donc elle a vu que la maison c'était plus la même, vu qu'elle était plus aménagée, on va dire, elle a plus kiffé, quoi, on va dire. Je sais pas si je me fais comprendre.
Ouais,
donc,
ouais.
Voilà, donc on est arrivé à un moment, c'est-à-dire que tous les délais de réaction sont passés, et on est carrément à la fin, quasiment à la date de signature. Pour pouvoir récupérer. Et donc, je voulais avant savoir, c'est-à-dire que nous, demain, si on refuse, c'est-à-dire qu'on ne veut plus prendre la maison, qu'est-ce qui m'engage à enlever ma responsabilité?
Vous risquez de perdre l'indemnité d'immobilisation. Parce que l'argument qui consisterait à dire moi, je suis d'accord, mais pas madame, c'est pas recevable en la matière. Vous êtes engagés tous les deux. Donc je crois qu'il vaudrait mieux convaincre madame.
Alors attendez, Ahmed, là vous avez noté le numéro de Maître Serran, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, Maître Serran.
Je suis joignable au 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Parce que là on est solidaire, ouais. Hein, dans cette décision. Merci Ahmed, c'est vrai qu'il restait peu de temps, merci Maître Serran d'avoir été avec nous. On vous retrouve vendredi prochain, mon petit lapin.
Avec plaisir, gros chaton.
Mon gros chaton, c'est bien.
Ouais. Un gros chaton, c'est doux, c'est gros sympa, chaton, c'est agréable.
Ouais. Je pense à quelqu'un d'autre, moi, quand on dit gros chaton. Ouais. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Merci d'avoir été avec nous, à vendredi.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.